Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est fait, c'est une première ou presque. L'État français a été condamné récemment par le tribunal administratif de Paris pour sa responsabilité actuelle dans la crise climatique, le fruit d'une action baptisée l'affaire du siècle, emmenée par un collectif d'associations et 2 millions de citoyens. Une décision qui marquera l'histoire et parle d'un profond changement en cours, car le saviez-vous, le Covid n'absorbe pas le CO2, pourrait-on dire en riant. Si la crise sanitaire autour du Covid occupe les esprits, la crise climatique, environnementale et sociale, elle, continue. Et pour nous en persuader, cette quatrième émission de notre série annuelle sur l'appel de Laudato Si, une émission coup de poing. L'appel de Laudato Si, quatrième en cette année Laudato Si, on prend notre courage à deux mains et on regarde la réalité en face à l'occasion donc d'un parcours que l'on a découpé, parcours spirituel pour une conversion écologique. Autour du plateau, Jérôme Guay, vous êtes religieux jésuite, co-auteur de cet ouvrage paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité. Bonjour.
Bonjour.
Bénédicte Lamoureux, vous êtes Xavière et directrice des Cotopaïs et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest. Bonjour.
Bonjour.
Et Anne-Marie Viguier, vous êtes membre du CCFD Terre Solidaire et vous êtes la référente de l'antenne toulousaine du collectif Éthique sur l'étiquette. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent au rendez-vous. Donc cette encyclique qu'un certain nombre ont lue ou alors qu'il faut lire d'urgence ou relire car elle est tellement riche qu'on n'a pas fini, on va dire, de la digérer. Et ce livre, donc Parcours spirituel pour une conversion écologique, sous-titré L'appel de Laudato Si, que l'on a repris en titre d'émission. Pour ceux qui nous rejoindraient, on a pris donc cet ouvrage qui est donc une retraite en 8 jours, c'est ça, hein, Jérôme Guay?
Oui, tout à fait, en 8 jours.
En 8 jours. Et au long de cette retraite, donc on essaie de voir différents aspects, ou en tout cas on essaie d'intérioriser l'appel de Laudato Si. Alors on peut dire qu'on a eu déjà 3 émissions. La première, accueillir la création comme un don fait par Dieu. Recevoir tous les éléments de la création comme de multiples frères et sœurs, ça c'était la deuxième. Et la vocation de l'homme la vocation que Dieu donne à l'homme de dominer humblement pour servir, cultiver et garder la terre. Et aujourd'hui, Jérôme Guay, c'est la défiguration de la création par les hommes. Comment vous introduiriez cette quatrième journée ?
Eh bien, après cette remise dans une juste place par rapport à Dieu, nous considérons ce qui se passe dans le monde. Nous considérons tous les travers dans lesquels l'homme s'est mis et est en train de se mettre pour essayer d'être conscient de cela et ensuite d'en tirer les conséquences pour une action qui remédie et qui permet à l'homme de se remettre dans le projet initial de Dieu qui est un homme libre, un homme qui respecte la nature et vit en symbiose avec cette nature.
Alors comme à chaque fois, j'ai cherché une des dernières actualités sur la crise climatique. C'est simple, je tape crise climatique sur un moteur de recherche. Et là, on tombe presque tout de suite donc sur cette décision du tribunal administratif de Paris, donc qui a reconnu récemment, donc c'était début février, la responsabilité partielle de l'État dans la crise climatique. Et ce, parce que l'État n'aurait pas respecté son propre budget carbone qu'il s'était fixé pour respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un budget carbone, c'est une limite en fait supérieure d'émissions de CO2. C'était donc, ça s'appelait l'affaire du siècle, c'était emmené donc par un collectif d'associations, Oxfam, Greenpeace, Fondation Hulot et autres. 2 millions de citoyens quand même derrière. Vous diriez que c'est historique, Jérôme Guay ?
Oui, c'est historique parce que d'abord, c'est la plus grosse pétition qui ait jamais eu lieu en France. 2 millions et 300 000 citoyens ont signé cette pétition qui soutenait ce recours en justice. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait exceptionnel.
On peut dire hein, qu'il y avait 2 autres motifs, mais qui n'ont pas été retenus. L'amélioration de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation. Et il va y avoir une suite à cette affaire, puisque a été demandé un supplément d'instruction. Alors, la défiguration de la création, vous commencez en fait par faire écho à l'encyclique du pape François, puisque le but c'est de regarder aussi la réalité, on va dire, droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous nous citeriez, Jérôme Gay, comme exemple pour introduire votre propos ? Ce sont des choses qu'on entend mais qu'il faut réentendre. Voilà, défiguration de la création, par quoi commencer, on se demande.
Bah, bien sûr, l'élément le plus connu aujourd'hui, c'est le dérèglement du climat, avec notamment l'élévation des températures à cause des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le point le plus massif, le plus sur lequel je pense qu'il y a le plus de conscience et sur lequel on commence à se mobiliser. Bien sûr, pas du tout assez, mais c'est le point le plus important, avec la bombe à retardement que ça risque de déclencher et de nous faire aller vers des zones complètement incontrôlables quant au climat et donc à la survie de beaucoup d'espèces, voire éventuellement de l'humanité. Oui.
Dans son encyclique, le pape François, quid des climato-sceptiques, j'ai envie de dire, dit la chose suivante: la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène et autres. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui continuent d'en douter ?
Bah d'abord, il faut regarder quelles sont les sources qui alimentent le doute. Aujourd'hui, la très très grande majorité des scientifiques dans le monde s'accordent pour dire que le réchauffement climatique est dû à l'action humaine. Voilà. Donc les personnes qui sont climato-sceptiques, il faut qu'elles regardent quelles sont leurs sources, qui alimentent leurs doutes. C'est très très peu de monde et souvent des personnes qui ne sont pas autorisées, enfin qui n'ont pas les compétences ou les... Donc déjà c'est la première chose. Ensuite, on commence à voir les effets réels du réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique, c'est vraiment très clair, il est établi. C'est le problème aujourd'hui qu'on a dans le positionnement vis-à-vis de la vérité, je dirais, établie par les scientifiques. Il y avait une très belle émission hier soir sur Arte qui expliquait bien ça. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que le réchauffement climatique ne soit pas établi et du coup vont distiller tout un tas d'autres soi-disant vérités, et qui fait que la vérité scientifique devient diluée parmi plein de vérités, et du coup ça alimente le doute. Cette manipulation-là est aujourd'hui très en cours et ravageuse.
Alors dans votre ouvrage, si on continue à regarder la réalité en face, vous prenez l'exemple du lac d'Annecy. Expliquez-nous cet exemple, pourquoi prendre l'exemple du lac d'Annecy ?
Oui, alors en fait, je cite cet exemple pour caractériser le côté massif et irréversible du dérèglement de l'environnement à cause de l'homme aujourd'hui. Et pour cela, cet exemple est intéressant parce que c'est un exemple que les plus anciens peuvent avoir en mémoire. Dans les années 70, on s'est aperçu que le lac d'Annecy était pollué. Et du coup, les acteurs se sont mis en coordination, une intercommunalité, les différentes communes ont installé des stations d'épuration, et puis au bout de quelques années, le lac n'a jamais été aussi pur. Voilà. Ça, c'est un exemple d'un dérèglement sur l'environnement, mais qui à petite échelle est réversible. Aujourd'hui, je prends cet exemple pour dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est planétaire, donc il faut que tout le monde, tous les États, alors qu'ils sont par principe malheureusement en compétition et même pas en guerre, il faut qu'ils s'entendent pour une action commune.
Vous laissez entendre que c'est trop tard aussi pour un certain nombre de choses. En tout cas, dans votre livre, capter à très bas coût le CO2 de l'atmosphère relève du rêve technologique. Purifier l'eau des mers des microparticules de plastique et autres polluants n'est même pas imaginable. Et enlever du sol des bananeraies martiniquaises et guadeloupéennes le pesticide cancérigène chlorothécone est une mission quasi impossible. Il y a des choses irréversibles.
Oui, et aujourd'hui, il y a des choses irréversibles. Très clairement. Alors, on ne va pas se laisser abattre en disant que c'est trop tard. Sur certaines choses, évidemment, les choses sont faites et on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire rewind. Voilà. On ne peut pas revenir. Bon. Mais c'est pas trop tard dans le sens où on peut s'arrêter et arrêter au plus vite les choses de façon à ce que les dégâts soient moindres. Voilà.
Alors, dans son encyclique, le pape François, il faut le parcourir, hein, c'est le chapitre premier, ce qui se passe dans notre maison. C'est pas le même mouvement que votre retraite, il commence pas par l'évangile de la création, qui est un regard plus contemplatif, mais par la situation actuelle, on peut trouver de multiples choses. Hein. Voilà, il parle il dit que le monde est devenu la terre, notre maison commune semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. Voilà, il parle des ressources en eau et autres difficultés de demain. Dans votre ouvrage aussi, vous parlez de la sixième extinction des espèces. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? C'est quoi cette sixième extinction des espèces ?
Donc il y a déjà eu dans l'histoire de la planète des extinctions d'espèces dues à des événements naturels, mais qui se réalisaient sur des durées très longues. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur des durées extrêmement courtes. Du coup, la planète, la nature n'a pas le temps de s'adapter. On a aujourd'hui, c'est gravissime, l'élévation de la température, des règlements du climat, c'est un des problèmes majeurs. C'est-à-dire que du fait du changement climatique, du fait de la prédation de l'homme, du fait du changement du milieu naturel de vie pour les espèces, eh bien, il y a plein d'animaux et d'espèces, que ce soit toutes petites, des bactéries ou des insectes jusqu'à des animaux mammifères, il y a des espèces qui vont disparaître, qui ont déjà disparu et qui vont disparaître. Voilà. Et ça, c'est très grave d'un point de vue d'abord global, c'est-à-dire que c'est grave dans le sens où c'est du fait de l'homme. Hein. Toute cette nature nous a été donnée, elle est là, et on ne va pas pouvoir le transmettre aux générations futures parce qu'on se sera conduit d'une telle manière que ça aura provoqué la disparition de ces espèces. Et puis ensuite, l'équilibre global de l'environnement, ça va porter une atteinte qui peut avoir des conséquences redoutables pour la planète et pour l'homme.
Et pour l'homme. Alors on va y venir à l'homme juste. Si on reste là-dessus, vous prenez l'exemple donc de disparition d'espèces et vous prenez par exemple l'orang-outan.
Oui.
Alors c'est vrai qu'on peut se dire, l'orang-outan est si grave que l'orang-outan disparaisse, docteur. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective cet exemple ?
Eh bien, l'orang-outan, c'est un animal qui nous est très très proche. On a, 98% de notre ADN qui est commun quand même. Voilà, donc c'est un cousin pour nous et qui vit sur l'île de Sumatra et qui est en train de disparaître à cause de la coupe des forêts pour faire des plantations d'huile pour produire de l'huile de palme. Voilà, donc là, c'est très clairement, il y a un impact humain à cause de l'homme. Et pourquoi cet animal va disparaître ?
Et pourquoi est-ce si grave ?
Eh bien,
parce qu'on peut se dire qu'on peut survivre sans en autant.
Oui, alors c'est extrêmement grave dans le sens de la manière dont l'homme se situe par rapport à la nature. C'est-à-dire, on a un très bel animal, et simplement pour pouvoir acheter des biscuits moins chers avec de l'huile de palme, ou pouvoir rouler en voiture avec de l'éthanol fabriqué à partir d'huile de palme, on va, avec de l'huile de palme dans le carburant, eh bien, on va faire disparaître cet animal. Mais en quoi on peut s'autoriser à faire ça ? Quelque chose qui nous est donné et qui est pour tout le monde et pour les générations futures.
Alors vous faites le lien aussi dans cette première partie, donc entre la crise environnementale et sociale. Il y a un exemple qui est très parlant que vous citez, c'est un encadré. On en revient quelque part au Rana Plaza à Dakar, hein, ce 24 avril 2013, où plus de 1000 personnes sont mortes dans un bâtiment donc, qui fabriquait, je crois, des t-shirts ou autres pour des grandes enseignes. Voilà, un immeuble donc, qui était fissuré. D'ailleurs, vous dites que la veille, les ouvriers ne voulaient pas venir retravailler parce qu'ils voyaient le bâtiment lézardé et puis il s'en est suivi ce drame. Est-ce que vous pouvez prendre cet exemple et nous expliquer le lien que vous faites entre l'environnement et le social ?
Alors, en fait, c'est l'augmentation de la température qui provoque l'augmentation du niveau des mers beaucoup de paysans ont leurs champs qui sont au ras de l'eau, qui sont très 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 bas niveau. Et donc, l'augmentation du niveau des mers entraîne un difficilement écoulement des eaux des fleuves qui traversent le Bangladesh et du coup des inondations et la salinisation des terres. Donc les paysans ne peuvent plus cultiver leurs terres et aujourd'hui des centaines de milliers de paysans qui sont obligés de fuir, ils perdent tout. Donc c'est une injustice considérable.
Vous dites que c'est 40% des terres agricoles d'ici à horizon 2050.
Hein. Voilà, c'est ce que donnent les organes, l'ONU, ce qu'annonce l'ONU. Et ils annoncent des dizaines de millions de paysans qui vont perdre leurs terres et vont fuir vers les mégapoles du Bangladesh. Donc c'est une injustice considérable. C'est à cause de notre niveau de consommation que ces gens-là, qui eux n'ont rien demandé et consomment presque rien, perdent leur terre.
Parce qu'eux, ils émettent 0,8... Enfin, ils utilisent 0,8 planètes par an.
Voilà. Bon, alors donc, il y a une sorte de mesure et on essaye de voir qu'est-ce qu'induit notre consommation. Et nous, les Français, on utilise 2,8 planètes par an. C'est-à-dire qu'il faut les ressources de 2,8 planètes pour arriver à maintenir notre niveau de vie. Les États-Unis, c'est 5 planètes. Le Bangladesh, eux, c'est en dessous de 1, donc ça veut dire qu'eux, ils sont dans un développement
pourtant,
durable.
C'est eux qui payent.
Eux qui vont payer. Donc c'est une injustice considérable. Et ensuite, alors, on peut redoubler la chose, c'est-à-dire que ces personnes-là vont se retrouver dans une misère et donc vont être exploitables. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des usines de textiles au Bangladesh. C'est un des lieux où la main-d'œuvre est la moins chère et où les gens travaillent pour presque rien et dans des conditions effroyables. Et l'accident que vous avez cité du Rana Plaza, eh ben, c'est monstrueux, c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans des conditions effroyables et là, dans des bâtiments qui n'assuraient absolument aucune sécurité, se sont effondrés. Il y a eu 1135 morts quand même. Hein. Et derrière, on a retrouvé dans les décombres les vêtements avec les étiquettes françaises. Donc le vêtement que j'achète là. Et c'est très intéressant cet exemple-là. Et il nous indique là, ce qui est très difficile dans cette histoire sur l'écologie et par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le péché des hommes, c'est de faire le lien entre un acte concret et les conséquences néfastes pour d'autres hommes. Et là, on peut l'établir d'une manière assez forte.
On entendra Anne-Marie Viguier qui nous parlera donc de quelques rencontres, hein, entre autres avec le collectif Éthique sur l'étiquette, puisqu'il y en a qui sont venues. Alors, elles n'étaient pas du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh, mais elles venaient du Cambodge, et puis elles sont allées se promener dans les magasins de quelques enseignes toulousaines. C'était des moments émouvants, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Le pape François a une expression, il nous demande d'écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Ce qu'on entend derrière, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il s'agit de réfléchir, on va dire, à grande échelle, en fait, au manquement de chacun. Vous parlez d'anthropocentrisme, je vais y arriver, dévié, culture du relativisme. Comment est-ce qu'on peut essayer de voir ça ou considérer ça à grande échelle?
Alors, c'est le pape qui utilise ces termes. La formule est très belle, hein, et je vraiment à écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres. C'est vraiment quelque chose à vraiment prendre en compte. Le pape, dans le chapitre 3 de l'encyclique, décrit de manière très intéressante les causes, la racine de tout ce qui se passe, la racine humaine. Voilà. Alors, l'anthropocentrisme déviant, c'est de mettre l'homme au centre. D'une certaine manière, on peut mettre l'homme au centre, mais de manière, aujourd'hui, on le fait de manière déviée, c'est-à-dire il est complètement au centre et tout le reste n'a pas de valeur. Voilà. Ça, c'est déviant. Le pape même indique qu'on a eu une lecture de la Bible qui, à certains moments, a été un peu trop, dans un certain sens, d'une domination de l'homme sur l'ensemble des êtres et des éléments de la nature et qui était plutôt conçue d'une manière prédatrice et non pas de soin. Voilà. Le relativisme pratique, c'est la formule qu'utilise le pape, c'est pour dire que, en fait, l'homme se met en absolu et met ses intérêts en premier. America first, voilà, c'est le fameux slogan de Trump et même de bien avant lui. Hein. Mais c'est moi d'abord, ma famille d'abord, mon village d'abord, ma nation d'abord. Et aujourd'hui, on entend beaucoup ça. Quand on dit ça, on se met en absolu soi-même par rapport à ses propres intérêts, sans prendre en compte l'ensemble des intérêts de l'ensemble de l'humanité et le respect de l'environnement.
Le système mondial est insoutenable de divers points de vue parce que nous avons cessé de penser aux fins de l'action humaine. Si le regard parcourt les régions de notre planète, il s'aperçoit immédiatement que l'humanité a déçu l'attente divine. Ça, c'est l'encyclique Laudato Si. On va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités, en l'occurrence Bénédicte Lamoureux, qui va nous aider à digérer, à la lumière de la parole de Dieu, ce que l'on vient d'entendre.
Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato Si, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette année Laudato Si qui a été déclarée donc au printemps dernier par le pape François. On fait notre part et donc on a une série d'émissions autour d'un livre Parcours spirituel pour une conversion écologique paru aux éditions Vie chrétienne et fidélité autour du plateau. Jérôme Guay, religieux, jésuite et co-auteur de cet ouvrage, Bénédicte Lamoureux, Xavier, directrice des Cotopaïs, Centre Jésus dans le Sud-Ouest, et Anne-Marie Viguier pour le CCFD Terre Solidaire et le collectif Éthique sur l'étiquette. Alors comme à chaque fois, puisqu'il s'agit en fait au départ d'une retraite, charge à vous Bénédicte. Alors ça n'est pas forcément au départ un exercice radio, mais on s'y fait. Vous essayez donc de nous faire, on va dire, de nous aider à digérer, de nous aider à intérioriser ce qu'on entend dans Laudato Si. Alors on fait toujours un détour par la parole de Dieu. Peut-être je commencerai par ça. Pourquoi est-ce que c'est important? On pourrait se contenter, en fait, après avoir écouté Jérôme ou lu l'encyclique, d'aller se promener et puis de se dire, bon, ben maintenant, il faut que je change.
Alors là, dans le parcours, on est justement dans une retraite. C'est donc je développe les points qui vont nous aider à prier et à entrer dans une conversion écologique. C'est quand même le but et c'est même le titre du livre, je crois. Donc...
Pourquoi ce détour par la parole de Dieu? Pourquoi est-ce indispensable?
La parole peut nous éclairer, bien entendu. La parole est celle qui nous relie à Dieu, c'est la parole de Dieu pour nous. Donc si nous mettons sous le regard de la parole, nous nous laissons toucher et convertir. Et la parole est toujours d'actualité. Alors,
elle est plus puissante quelque part que même qu'une encyclique ou que...
Oui, parce que c'est la parole de Dieu lui-même. Voilà, elle vient nous rejoindre. On dit dans la Bible justement, cette parole, elle est tranchante et douce comme le miel. À la fois, elle tranche dans ce qu'il y a à trancher, parce que justement, là, il s'agit de, dans cette défiguration de la création, de trancher et d'avancer et de se laisser convertir. Et elle peut être aussi douce, douce comme le miel, on l'a vu dans les premiers chapitres, où on voit bien que l'homme fait partie de cette création et qu'il est aimé de Dieu. Et donc, c'est aussi doux comme le miel de se laisser aimer de Dieu, que Dieu nous a créés vivants et heureux. Mais qu'en avons-nous fait ? On en est là aujourd'hui. Qu'en avons-nous fait de cette création ?
Alors, c'est une retraite donc, selon les exercices spirituels de Saint Ignace. Vous vouliez commencer par ça. Quid de... Quel éclairage la spiritualité ignatienne ou Saint Ignace peut nous donner sur ce thème du jour, qui est donc la défiguration de la création par les hommes ?
Mais je pense, en écoutant tout à l'heure Jérôme, et puis de façon générale, quand on ouvre notre télé ou quoi, on peut être écrasé si on prend conscience un tout petit peu de tout ce qui se passe. En lisant aussi les encycliques du pape, qui chaque fois font un... Vous voyez, le pape, c'est toujours voir, juger, agir, en gros. Hein. Donc, quand on est dans le chapitre sur le constat de la dégradation de ce monde, on peut être écrasé. Ignace, lui, il ne veut pas nous écraser, mais il nous invite à être solidaires et à ouvrir nos yeux sur la solidarité que nous éprouvons entre hommes dans cette affaire de dégradation. Et donc, il va considérer dans les exercices spirituels, d'abord, il va même parler du péché des anges, comment ils se sont détournés de Dieu, et ensuite, il parle du péché des hommes, avant de parler du péché personnel. C'est nous faire prendre de la hauteur sur la notion de péché, j'allais presque dire sur l'histoire du péché aussi dans le monde et dans l'humanité. Et donc, c'est intéressant parce que pour nous, autant dans les premiers chapitres de ce parcours, on a pu comprendre qu'on était aimé parmi d'autres, un parmi d'autres, mais aimé de façon personnelle, mais un parmi d'autres dans cette création. Et c'est la même chose du côté du péché, c'est-à-dire que malgré tout, l'humanité entière pêche et il s'agit de regarder comment ça dysfonctionne. Alors,
On est pris quelque part
on
dans
est
une
pris
structure
dans un ensemble.
Plus grande que soi,
voilà,
c'est ça ?
Jean-Paul II parlait de structure de péché, mais c'est réel. Regardez les cartels de la drogue, regardez le commerce des armes. Voilà, et vous pouvez dégringoler après. Vous allez trouver des gens tout à fait honnêtes qui vont être participants au fin fond du Pérou. Ils auront un mètre carré de drogue parce que ça va faire vivre toute la famille, mais ils vont participer à cause de ça, parce qu'il n'y a que ça qui pousse chez eux, parce que, alors qu'en fait, ils sont dans une droiture d'intention en soi. Voilà, et donc il y a une solidarité là-dedans qui nous dépasse un peu aussi. Et il est bon de prendre de la hauteur pour regarder cette solidarité aussi dans le mal, et ensuite regarder seulement chez nous, et ce qu'on fera la prochaine fois au chapitre suivant.
Alors, vous avez choisi deux passages des Écritures qui sont proposés, donc, entre autres, dans cette retraite. Donc, le premier, c'est Genèse 6. C'est l'histoire de Noé. Alors, Noé, qui ne connaît pas Noé ? Donc, cet homme, ce juste, hein, je crois que c'est comme ça qu'il est désigné, à qui Dieu demande donc de se construire un bateau, d'y mettre dedans, j'entreflue le passage, mais presque tout ce qui se trouve sur la terre, tout ce qui vit, tout ce qui est cher, tu feras entrer dans l'arche deux à deux de chaque espèce pour les garder en vie avec toi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage ?
Alors, c'est surtout le début, en fait. C'est Dieu qui regarde l'homme, la corruption de l'humanité. Et donc, c'est le regard que l'on porte sur ce monde entier qui se détruit, qui va à sa perte. Alors, du coup, il y a une conscience du mal dans le monde, une violence, une destruction. Et là, on peut imaginer, dans sa prière, on peut reprendre tous les lieux qu'on a vus et qu'on voit à la télé ou qu'on lit dans les journaux ou ailleurs. Par exemple, pourquoi pas au début de ma prière me positionner devant une décharge, devant on parlait d'immenses dépotoirs, dans un paysage ravagé.
Donc on va en Indonésie et on tient la main de l'orang-outan.
On est dans un bidonville. On voit des visages d'enfants qui mangent assis par terre les mains sales, des mouches. On en a tous vu. Et ça, peut-être, prendre ça comme composition de lieu, c'est la croix du Christ actualisée, on pourrait dire. En voilà, prier devant ça, se mettre devant ça et recevoir cette image et voir que voilà, je suis aussi solidaire de ce monde-là. Voilà. Et donc,
si vous reprenez Noé, en l'occurrence, ça serait quel passage peut-être sur lequel il faudrait s'arrêter?
C'est tout le début.
Si vous pouviez citer certains passages sur lesquels il faut regarder, vous disiez qu'il fallait être attentif à la composition de lieu aussi de ce passage.
Oui, c'est ça. Y avait vu la méchanceté de l'homme et qu'elle était grande sur la face de la terre et son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Voilà. Alors, vous lisez ça et puis vous essayez de voir un peu les lieux où il y a eu des formations. Et Yahvé va jusqu'à se repentir d'avoir créé l'homme.
Se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur.
Voilà. Et malgré tout, Dieu, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, et c'est ça qu'Ignace propose aussi, c'est que, bien sûr, on est solidaire du monde et du mal dans le monde, mais il suffit d'un seul pour renverser la vapeur.
Mais alors, dans la retraite, vous laissez entendre qu'il faut considérer...
Noé est celui-là.
Vous dites, dans la retraite, vous invitez aussi à considérer la décision finale de Dieu et sa radicalité. C'est-à-dire, pourquoi cette invitation, c'est ce qu'on peut trouver dans
la radicalité là, c'est qu'il va faire... Alors d'abord, il choisit quand même un homme, il va aider à Noé, et puis il va inviter Noé à faire monter tous ses animaux dans l'arche, et il va sauver l'humanité par ce biais-là. Donc voilà, il y a aussi toute une épreuve pour traverser ça.
Donc c'est quoi? C'est la radicalité de la bonté de Dieu qu'il faut contempler, pas...
C'est la radicalité de l'épreuve à traverser, plutôt.
Jérôme Gay, est-ce que vous voulez intervenir, peut-être pour éclairer un peu la résonance avec la première partie?
Oui, je pense que ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois qu'on considère le mal, le péché, de toujours avoir en tête aussi l'amour infini et inconditionnel de Dieu. Voilà. Sinon, on va désespérer. Voilà. Donc, on envisage là des choses qui sont dures. Quand tu disais, Bénédicte, imaginez des scènes où on voit la violence ou des gens dans l'extrême misère, c'est des choses qui sont très dures. On ne va pas se charger de tout le péché du monde entier sans regarder. D'abord, on ne va pas s'en charger parce qu'on est simplement pour une toute petite part. Et ensuite, on le fait, mais toujours en regardant l'amour infini de Dieu par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, nous sommes pécheurs, mais nous sommes aimés jusqu'au bout. Quoi. Donc, si on considère le péché, c'est pour considérer le pardon de Dieu, toujours.
Et l'autre projet de Dieu, quelque part aussi, c'est ce qu'on entend dans le récit de Noé. Et...
Bien sûr. Derrière, c'est que... Alors, on aura l'occasion de le voir dans des chapitres suivants, mais c'est que Dieu croit en l'humanité.
Autre rêve pour l'humanité, voilà. Oui.
Et donc, Dieu propose Noé comme un juste qui va ouvrir un chemin, en fait. Alors, c'est une allégorie, c'est une image, mais c'est très intéressant pour nous de en ayant composé ces lieux qui sont, entre guillemets, sordides, de dire, mais il y a aussi des lieux vivants. Voilà. Et que cette humanité, elle n'est pas vouée à la catastrophe depuis l'origine. Elle est aussi regardée de façon immensément aimée de Dieu. Et donc, voilà. Et Ignace, il nous fait demander la honte et la confusion devant tout ce qui se passe. C'est intéressant parce que la honte, on en parle peu. Voilà. On va parler beaucoup plus dans le monde d'aujourd'hui de la culpabilité. Or, la culpabilité, c'est de soi sur soi. La honte, c'est devant quelqu'un qui vous aime. Vous ne pouvez pas éprouver de honte autrement que devant quelqu'un qui vous aime. Et donc, Ignace nous fait demander cette grâce de recevoir la honte et la confusion devant l'épreuve de l'horreur de ce monde qui se dégrade. Voilà.
Bénédicte Lamoureux, vous voulez prendre aussi le psaume 52, donc 53-52, un peu comme un récapitulatif de la thématique de ce jour, donc la défiguration de la création par les hommes. Le titre de ce psaume, d'ailleurs, c'est « L'homme sans Dieu ». Ouais. Vous pouvez peut-être nous en lire certains passages.
Dans son cœur, le fou déclare pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Vous voyez, on a déjà un petit résumé de ce qu'on vient de dire. On voit déjà se lever Noé. Tous, ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal ? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Dieu, jamais ils ne l'invoquent. Alors, on voit là aussi combien l'homme, et Jérôme le disait tout à l'heure, est centré sur lui et veut bâtir sa vie, son monde, son idéal, et évidemment sans Dieu.
Alors moi j'ai même une expression encore plus forte dans ma traduction, il mange mon peuple. Hein.
Oui,
voilà le pain qu'il mange, il n'invoque pas Dieu.
Oui.
Et finissez peut-être, puisqu'il est court celui-là, on peut peut-être aller jusqu'au
et
bout.
Et voilà qu'ils se sont mis à trembler sans raison. Oui, Dieu a dispersé les eaux de tes assiégeants, tu peux en rire, Dieu les rejette. Qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand le Seigneur ramena les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie ! Sur la fin du psaume, on voit déjà l'ouverture qui peut se faire si il y a une prise de conscience de l'humain. Derrière, il y a aussi tout l'appel au vivre ensemble, voilà, d'avancer dans la richesse de ce que nous sommes les uns à côté des autres.
Allez,
et de s'éveiller à cette conscience écologique.
On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver notre témoin du jour, Anne-Marie Viguier, pour le CCF des Terres Solidaires et collectif éthique sur l'étiquette.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudate aussi, quatrième émission, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, autour du plateau, Jérôme Gué, religieux jésuite, Bénédicte Lamoureux, directrice des Côtes aux Pays, centre jésuite dans le sud-ouest, et Anne-Marie Viguier, membre du CCFD Terre Solidaire et qui est présente aussi pour le collectif Éthique sur l'étiquette. Alors vous êtes notre témoin du jour, à chaque fois je me dis qu'on devrait presque commencer par le témoignage, mais bon, c'est pas la structure qu'on a décidée, ni celle de la retraite ou du parcours spirituel qu'on essaye de suivre. En l'occurrence, là, on aurait aimé trouver un réfugié climatique ou quelqu'un, va dire, de là-bas qui vit les conséquences de nos actes, on va dire, en premier. Mais on vous a trouvé, vous, et on est bien content. Le collectif Éthique sur l'étiquette, donc, vous en faites partie. Vous êtes même donc sa responsable référente pour Toulouse. On prendra le temps peut-être de le présenter. Allez-y, présentez-le peut-être rapidement avant qu'on prenne quelques exemples de la fast fashion, comme on dit.
Alors, le collectif Éthique sur l'étiquette au niveau national rassemble une vingtaine d'ONG, de syndicats, d'associations de défense de consommateurs qui sont mobilisés pour défendre les droits humains au travail dans le monde et qui se bat aussi pour un encadrement contraignant des multinationales. Alors ici, localement, nous n'avons pas tous ces représentants d'associations, de syndicats, mais nous avons Artisans du Monde, le CCFD Terre Solidaire avec plusieurs membres, la CFDT, la branche ASECO Consommation.
La CGT, vous disiez Oxfam, etc.
Bientôt, la CGT Indecosa et Oxfam.
Alors donc vous aidez en fait à découvrir ce qu'il y a derrière nos étiquettes, hein, c'est aussi simple que ça, et à faire en sorte qu'on prenne conscience qu'il faut essayer d'y mettre de l'éthique. Alors prenons quelques exemples. Si on se balade sur votre site internet, comme ça vous prenez un t-shirt, c'est un sweatshirt pardon, sur lequel donc de la collection d'une grande marque, allez on va dire, bah, vous la citez donc c'est Zara, avec marqué respect et avec ce sous-titre find out what it means to me. Et vous décryptez, on va dire, cette invitation au respect en mettant en fond des travailleuses dans des usines qui font les t-shirts Zara. Alors expliquez-nous, quel est quelque part le scandale que l'on ne connaît pas derrière cette fast fashion, comme on dit?
Ben, Zara, ainsi que d'autres enseignes que j'évoquerai tout à l'heure, c'est le leader mondial de la fast fashion. Cette mode jetable, Zara a un chiffre d'affaires a multiplié son chiffre d'affaires en 5 ans par 5 en moins de 20 ans, donc pour atteindre des milliards d'euros. Et qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on dénonce? C'est que chez Zara, par exemple, à l'autre bout du monde, et pas si loin que ça finalement, parce que ce sont des ouvriers et des ouvrières turcs qui gagnent un salaire qui ne leur permet pas de vivre dignement. Il leur faudrait un salaire trois fois plus important
vous dites.
Pour pouvoir vivre dignement. Zara pourrait.
Alors justement,
je pense que c'est le modèle nous pensons que c'est une question de modèle économique et de choix qui est fait.
Alors vous citez l'exemple précis, vous dites que ce sweat il est vendu donc 26,70 €, que Zara en capte 4,20 € de bénéfices, il reste 2,08 € pour rémunérer les travailleurs à l'autre bout de la chaîne, et donc vous expliquez qu'on pourrait faire autrement. Vous laissez entendre qu'il y a des bénéfices considérables qui sont donc engrangés, vous avez cité les chiffres tout à l'heure, et puis vous dites que son patron, son fondateur, Amancio Ortega, est aujourd'hui le sixième homme le plus riche de la planète, 63 milliards d'euros. Donc on pourrait en fait augmenter le salaire des travailleurs sans préjudice, c'est ça que vous laissez entendre?
Mais bien sûr, parce que vous avez dit tout à l'heure que ce qui revenait aux ouvriers ou aux ouvrières, c'était 2,08 €, mais sur toute la chaîne, Alors, imaginons qu'un vêtement, c'est la confection, c'est des boutons, c'est des... voilà, 2,08 €, c'est pas ce que vont percevoir les ouvriers et les ouvrières. Elles vont percevoir ou ils vont percevoir beaucoup moins. Et ça n'est pas, nous, ce qu'on revendique un petit peu. C'est un salaire vital qui leur permette de faire face à leurs besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, l'éducation, la santé. On verra tout à l'heure.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre un exemple? Parce que donc, vous en avez rencontré, vous en faites venir de temps en temps. En l'occurrence, il y a eu deux rencontres. Parlez-nous de ces deux rencontres. C'était à chaque fois donc, des Cambodgiennes. Vous les avez emmenées soit dans des magasins, grandes enseignes de fast fashion donc, dans le centre de Toulouse, ou alors à une action collective. Racontez-nous ces deux épisodes, en quoi ils étaient vraiment frappants et bouleversants.
Alors, avec les deux Cambodgiennes qui étaient accompagnées avec la référente du collectif national, Naïla, nous avons organisé une soirée où elles ont témoigné.
Qui étaient-elles, ces deux Cambodgiennes ?
Elles étaient des ouvrières de l'industrie textile. Et l'une d'elles avait travaillé pendant 10 ans dans l'industrie textile. Et justement, l'une des questions de l'une des dans l'assemblée a été de dire « Mais comment vous avez pu tenir 10 ans ?» Et elle a répondu « Parce que j'étais la seule à avoir un travail dans la famille. » Et elles ont témoigné en nous disant « Eh ben, on est issu souvent des campagnes. » On quitte notre famille à cause de la grande pauvreté, à cause de la baisse, là au Cambodge, du niveau de l'eau dans les rizières suite au changement climatique. Et on va vers les villes, ce que évoquait Jérôme tout à l'heure avec le drame du Rana Plaza. C'est la même chose.
Alors, vous avez été jusqu'à l'emmener donc dans un magasin, dans une grande enseigne. Vous pouvez raconter cet épisode?
Oui. Alors, elles sont restées deux, trois jours sur Toulouse. Donc, on a été chez H&M et elles ont été, enfin, surprises en retrouvant des vêtements qu'elles avaient confectionnés. Et ça a été l'émotion. Et puis, quand elles ont vu le prix auquel étaient vendus ces vêtements, pourtant, ce n'est pas un prix très élevé, mais quand, petit peu en parallèle avec ce qu'elles pouvaient gagner, c'était scandaleux, quoi.
Deuxième exemple, c'est aussi une Cambodgienne qui est venue. Là, vous aviez donc...
Cette Cambodgienne,
une action de rue.
Été invitée par le CCFD Terres Solidaires dans le cadre de la campagne de Carême. C'était au mois de mars et on a organisé un day-in, c'est-à-dire une action de rue devant l'enseigne Zara à Toulouse.
Donc vous vous allongez par terre, vous faites semblant que c'est des ouvrières qui s'évanouissent, c'est ça ?
Voilà, ces ouvrières qui travaillent dans des conditions difficiles, 14, 15, 16 heures par jour, quand il y a des commandes
debout,
qui arrivent du... ou assises.
Enfin, parfois, certaines laissent entendre qu'on trouve sur
parfois
votre site.
Debout, oui. Donc, ces conditions de travail sont terribles. Donc, parfois, elles s'évanouissent. Alors, pour, en quelque sorte, faire référence à cet évanouissement, on s'est allongé, voilà. Et en même temps, on a expliqué aux gens pourquoi cette action avec des slogans lancés au mégaphone. Et cette partenaire cambodgienne, elle était là, on l'a invitée à venir. Elle a été vraiment très émue et presque émue aux larmes en nous disant merci. Je n'imaginais pas que dans les pays du Nord, on puisse dénoncer nos conditions de travail et ce que l'on vit là-bas, dans ce que vivent ces ouvrières au Cambodge, chez nous.
Et des actions comme ça, donc vous en menez, hein, on peut voir que vous menez parfois des safaris des marques contre la fast fashion, etc. Vous faites des actions entre autres à Toulouse devant l'enseigne Primark, mais bon, on ne va pas toutes les citer, on trouvera chacun facilement. Votre collectif, donc le collectif éthique sur l'étiquette, même si vous faites partie du CCFD Terres Solidaires aussi, ne se contente pas de dénoncer, vous agissez aussi, donc pour que les droits humains au travail soient respectés. Vous rappelez entre autres qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui pourrait être qui est le fondement d'un droit international relatif aux droits humains et donc aux droits du travail. Bref, différentes actions. Il y a là-dedans des victoires. Alors, vous vouliez en citer une. C'est une loi donc de 2017. Preuve que se mobiliser sert à quelque chose. Loi relative au devoir de vigilance.
Oui, à ce jour, seule la France a introduit cette loi qui a été... Il a fallu une bagarre, et pourtant c'était sous un gouvernement dit de gauche, sous François Hollande. Il a fallu plus de 4 ans de bagarre, en quelque sorte, avec des députés pour porter et faire advenir cette loi sur le devoir de vigilance pour les multinationales, c'est-à-dire rendre en quelque sorte obligatoire pour ces grandes multinationales le fait qu'elles soient responsables des dégâts ou de la violation des droits humains et aussi des atteintes à l'environnement.
Alors, c'est-à-dire que les maisons mères des entreprises donneuses d'ordre sont responsables juridiquement des impacts de leur activité tout au long de la chaîne de production.
Voilà. Et tous les ans, elles doivent normalement rédiger un plan de vigilance qui montre qu'elles agissent. Et ces plans de vigilance, on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont très flous. Ils ne sont pas précis. Ils font référence à assez peu de choses. Donc, il faut continuer la bagarre en quelque sorte, pour de vrais plans de vigilance.
Alors vous les portez, donc vous travaillez avec d'autres organisations, apportez ça au niveau européen et mondial, vous pouvez peut-être finir par
ça. Oui, alors effectivement, le collectif Éthique sur l'étiquette, c'est que la branche française d'une organisation un peu plus large, la Clean Clothes Campaign, au niveau européen, mais on agit avec, notamment... vis-à-vis de cette loi et aussi au niveau européen pour faire advenir une loi, là aussi. On agit avec d'autres organisations, ONG, le CCFD Terre Solidaire, Sherpa. Et début 2021, par exemple, j'ai envie de dire, la Commission européenne a lancé une consultation publique jusqu'au lundi 8 février, donc ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, pour appeler toute organisation citoyenne à indiquer ce que devrait être le contenu de cette directive. Ça serait une directive plus qu'une loi. Une directive que nous espérons ambitieuse et on se...
Une directive donc du même ordre, c'est ça ? Mais
voilà,
au niveau européen.
Qui s'apparenterait un peu à ce qu'est la loi sur le devoir de vigilance. Et c'est aussi, plus largement encore, au niveau de l'ONU, c'est l'espoir d'un traité onusien. Et par exemple, la dernière rencontre qui a eu lieu en octobre pour la 6e session de négociation pour ce traité, qui s'est tenue à Genève. Nous, de notre côté, par exemple, en tant que collectif, et au niveau national et au niveau local, on a interpellé, rencontré ou demandé aux maires de nos communes donc, d'écrire à leur gouvernant, à notre gouvernant, pour qu'advienne
cette loi et cette directive.
Voilà.
Eh ben merci beaucoup et en tout cas par votre truchement. Donc on a bien entendu ce que vivent ces femmes et ces rencontres bouleversantes que vous avez vécues et qu'on a du coup vécu un petit peu avec vous. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre qui nous sert au long de cette année, sur lequel on s'appuie, Parcours spirituel pour une conversion écologique, paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité. Et pour le collectif Éthique sur l'étiquette ou le CCFD Terre solidaire, on tape ça sur un moteur de recherche. Pour Éthique sur l'étiquette, c'est éthique-sur-étiquette.org. Un grand merci à vous. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.